L'aventure. Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route. Et même lorsqu'il se fut décidé à me tout confier, durant des jours de détresse dont je reparlerai, ce resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd'hui que tout est fini, maintenant qu'il ne reste plus que poussière de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure. À 1h30 de l'après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Maulne fit marcher la bête bon train, car il savait n'être pas en avance. Il ne songea d'abord, pour s'en amuser, qu'à notre surprise à tous, lorsqu'il ramènerait dans la carriole à 4h le grand-père et la grand-mère charpentier, car à ce moment-là, certes, il n'avait pas d'autre intention. Peu à peu, le froid le pénétrant, il s'enveloppe les jambes dans une couverture qu'il avait d'abord refusée et que les gens de la Belle Étoile avaient mise de force dans la voiture. À 2h, il traversa le bourg de la Motte. Il n'était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe et s'amusa de voir celui-là aussi désert, aussi endormi. C'est à peine si, de loin en loin, un rideau se leva, montrant une tête curieuse de bonne femme. À la sortie de la Motte, aussitôt après la maison d'école, il hésita entre deux routes et crut se rappeler qu'il fallait tourner à gauche pour aller à Vierzon. Personne n'était là pour le renseigner. Il remit sa jument au trot sur la route, désormais plus étroite et mal empierrée. Il longea quelque temps un bois de sapin et rencontra enfin un roulier à qui il demanda, mettant sa main en porte-voix, s'il était bien là sur la route de Vierzon. La jument, tirant sur les guides, continuait à trotter. L'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait. Il cria quelque chose en faisant un geste vague, et à tout hasard, Maulne poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois seulement, une pie s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudées sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid qui traversait maintenant la couverture, Maulne eut repris ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts, avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maulne voulut lui faire reprendre sa vive allure, mais elle continua à marcher au pas avec une extrême lenteur, et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt, il sauta à terre très inquiet. « Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train, » dit-il à mi-voix. Et il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante, à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin et qu'il n'était plus là, sur la route de Vierzon. Il examina longuement le pied de la bête et n'y découvrit aucune trace de blessure. Très craintive, la jument levait la patte dès que Maulne voulait la toucher et grattait le sol de son sabot lourd et maladroit. Il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot. En gars expert au maniement du bétail, il s'accroupit, tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux, mais il fut gêné par la voiture. À deux reprises, la jument se déroba et avança de quelques mètres. Le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou. Il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse. Mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que Maulne dut sortir son couteau de paysan pour en venir à bout. Lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi étourdi et les yeux troubles, Il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que Maune eût immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin, ce chemin-là devait bien à la longue mener vers quelque village. Ajoutez à toutes ces raisons que le grand gars, en remontant sur le marchepied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides, sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part en dépit de tous les obstacles. Il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot. L'obscurité croissait. Dans le sentier raviné, il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture. Parfois, une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec. Lorsqu'il fit tout à fait noir, Maulne songea soudain, avec un serrement de cœur, à la salle à manger de Sainte-Agathe, où nous devions à cette heure être tous réunis. Puis la colère le prit, puis l'orgueil et la joie profonde de s'être ainsi évadé, sans avoir voulu. Soudain, la jument ralentit son allure comme si son pied avait buté dans l'ombre. Maulne vit sa tête plonger et se relever par deux fois, puis elle s'arrêta net, les naseaux bas, semblant humer quelque chose. Autour des pieds de la bête, on entendait comme un clapotis d'eau. Un ruisseau coupait le chemin. En été, ce devait être un gué, mais à cette époque, le courant était si fort que la glace n'avait pas pris et qu'il eût été dangereux de pousser plus avant. Maulne tira doucement sur les guides pour reculer de quelques pas et, très perplexe, se dressa dans la voiture. C'est alors qu'il aperçut entre les branches une lumière. Deux ou trois prés seulement devaient la séparer du chemin. L'écolier descendit de voiture et ramena la jument en arrière, en lui parlant pour la calmer et pour arrêter ses brusques coups de tête effrayés. « Allons, ma vieille, allons. Maintenant, nous n'allons pas plus loin. Nous saurons bientôt où nous sommes arrivés. » Et poussant la barrière entr'ouverte d'un petit pré qui donnait sur le chemin, il fit entrer là son équipage. Ses pieds enfonçaient dans l'herbe molle. La voiture cahotait silencieusement. Sa tête contre celle de la bête, il sentait sa chaleur et le souffle dur de son haleine. Il la conduisit tout au bout du pré, lui mit sur le dos la couverture, puis, écartant les branches de la clôture du fond, il aperçut de nouveau la lumière qui était celle d'une maison isolée. Une halte! Il lui fallut bien tout de même traverser trois prés et sauter un traître petit ruisseau où il fallait plonger les deux pieds à la fois. Enfin, après un dernier saut du haut d'un talus, il se trouva dans la cour d'une maison campagnarde. Un cochon grognait dans son tête. Au bruit des pas sur la terre gelée, un chien se mit à aboyer avec fureur. Le volet de la porte était ouvert et la lueur que Maulne avait aperçue était celle d'un feu de fagot allumé dans la cheminée. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle du feu. Une bonne femme dans la maison se leva et s'approcha de la porte sans paraître autrement effrayée. L'horloge à poids, juste à cet instant, sonna la demi de 7 heures. « Excusez-moi, ma pauvre dame, dit le grand garçon, je crois bien que j'ai mis le pied dans vos chrysanthèmes. » Arrêtée, un bol à la main, elle le regardait. « Oh, il est vrai, dit-elle, qu'il fait noir dans la cour, a eu pas s'y conduire. » Il y eut un silence pendant lequel Maulne, debout, regarda les murs de la pièce tapissée de journaux illustrés comme une auberge et la table sur laquelle un chapeau d'homme était posé. « Il est pas là, le patron ?» dit-il en s'asseyant. Il va revenir, répondit la femme, mise en confiance. Il est allé chercher un fagot. Oh, ce n'est pas que j'ai besoin de lui, poursuivit le jeune homme en rapprochant sa chaise du feu. Mais nous sommes là, plusieurs chasseurs à l'affût. Je suis venu vous demander de nous céder un peu de pain. Il savait, le grand môme, que chez les gens de campagne et surtout dans une ferme isolée, il faut parler avec beaucoup de discrétion, de politique même, et surtout ne jamais montrer qu'on n'est pas du pays. Oh, « Du pain, dit-elle, oh, nous ne pouvons guère vous en donner. Le boulanger, qui passe pourtant tous les mardis, n'est pas venu aujourd'hui. » Augustin, qui avait espéré un instant se trouver à proximité d'un village, s'effraya. « Le boulanger de quel pays ? » demanda-t-il. « Ah ben, le boulanger du vieux Nancy !» répondit la femme avec étonnement. « Mais c'est à quelle distance d'ici, au juste le vieux Nancy ?» poursuivit Maulne, très inquiet. « Par la route, je ne saurais pas vous dire au juste, mais par la traverse, il y a 3 lieues et demie. » Et elle se mit à raconter qu'il y avait sa fille en place, qu'elle venait à pied pour la voir tous les premiers dimanches du mois, et que ses patrons... Mais Maulne, complètement dérouté, l'interrompit pour dire « Le vieux Nancy serait-il le bourg le plus rapproché d'ici ?»« Ah non, non, c'est les Landes, à 5 kilomètres. Mais il n'y a pas de marchand ni de boulanger, il y a tout juste une petite assemblée chaque année à la Saint-Martin. » Maulne n'avait jamais entendu parler des Landes. Il se vit à tel point égaré qu'il en fut presque amusé. Mais la femme, qui était occupée à laver son bol sur l'évier, se retourna, curieuse à son tour, et elle dit lentement, en le regardant bien droit, « Mais c'est-il que vous n'êtes pas du pays ?» À ce moment, un paysan âgé se présenta à la porte avec une brassée de bois qu'il jeta sur le carreau. La femme lui expliqua très fort, comme s'il eût été sourd, ce que demandait le jeune homme. « Oh, eh bien, c'est facile, » dit-il simplement, « mais approchez-vous, monsieur, vous ne vous chauffez pas. » Tous les deux, un instant plus tard, ils étaient installés près des chenets. Le vieux cassant son bois pour le mettre dans le feu, Maulne mangeant un bol de lait avec le pain qu'on lui avait offert. Notre voyageur, ravi de se trouver dans cette humble maison après tant d'inquiétudes, pensa que sa bizarre aventure était terminée, et il faisait déjà le projet de revenir plus tard avec des camarades, revoir ces braves gens. Il ne savait pas que c'était là seulement une halte et qu'il allait tout à l'heure reprendre son chemin. Il demanda bientôt qu'on le remît sur la route de la Motte, et, revenant peu à peu à la vérité, il raconta qu'avec sa voiture, il s'était séparé des autres chasseurs et se trouvait maintenant complètement égaré. Alors l'homme et la femme insistèrent si longtemps pour qu'il restât couché et repartît seulement au grand jour, que Maulne finit par accepter et sortit chercher sa jument pour la rentrer à l'écurie. « Vous prendrez garde au trou de la Sente, lui dit l'homme. Maulne n'osa pas avouer qu'il n'était pas venu par la Sente. Il fut sur le point de demander au brave homme de l'accompagner. Il hésita une seconde sur le seuil, et si grande était son indécision qu'il faillit chanceler. Puis il sortit dans la cour obscure. Pour s'y reconnaître, il grimpa sur le talus d'où il avait sauté. Lentement et difficilement, comme à l'aller, il se guida entre les herbes et les eaux, à travers les clôtures de saules, et s'en fut chercher sa voiture dans le fond du pré où il l'avait laissée. La voiture n'y était plus. Immobile, la tête battante, il s'efforça d'écouter tous les bruits de la nuit, croyant à chaque seconde entendre sonner tout près le collier de la bête. Rien. Il fit le tour du pré. La barrière était à demi ouverte, à demi renversée, comme si une roue de voiture avait passé dessus. La jument avait dû par là s'échapper toute seule. Remontant le chemin, il fit quelques pas et s'embarrassa les pieds dans la couverture qui sans doute avait glissé de la jument à terre. Il en conclut que la bête s'était enfuie dans cette direction. Alors il se prit à courir. Sans autre idée que la volonté tenace et folle de rattraper sa voiture, tout le sang au visage, en proie à ce désir panique qui ressemblait à la peur. Il courait. Parfois, son pied butait dans les ornières. Au tournant, dans l'obscurité totale, il se jetait contre les clôtures et, déjà trop fatigué pour s'arrêter à temps, s'abattait sur les épines, les bras en avant, se déchirant les mains pour se protéger le visage. Parfois, il s'arrêtait, écoutait et repartait. Un instant, il crut entendre un bruit de voiture, mais ce n'était qu'un tombereau cahotant qui passait très loin sur une route à gauche. La bergerie. Vint un moment où son genou blessé au marchepied lui fit si mal qu'il dut s'arrêter, la jambe raidie. Alors il réfléchit que si sa jument ne s'était pas sauvée au grand galop, il l'aurait depuis longtemps rejointe. Il se dit aussi qu'une voiture ne se perdait pas ainsi et que quelqu'un la retrouverait bien. Enfin, il revint sur ses pas, épuisé, colère, se traînant à peine. À la longue, il crut se retrouver dans les parages qu'il avait quittés, et bientôt il aperçut la lumière de la maison qu'il cherchait. Un sentier profond s'ouvrait dans la haie. « Ah, voilà la sente dont le vieux m'a parlé !» se dit Augustin. Et il s'engagea dans ce passage, heureux de n'avoir plus à franchir les haies et les talus. Au bout d'un instant, le sentier déviant à gauche, la lumière parut glisser à droite, et, parvenu à un croisement de chemin, Maulne, dans sa hâte à regagner le pauvre logis, suivit sans réfléchir un sentier qui paraissait directement y conduire. Mais à peine avait-il fait 10 pas dans cette direction que la lumière disparut, soit qu'elle fut cachée par une haie, soit que les paysans, fatigués d'attendre, eussent fermé leurs volets. Courageusement, l'écolier sauta à travers champs, marcha tout droit dans la direction où la lumière avait brûlé tout à l'heure. Puis, franchissant encore une clôture, il retomba dans un nouveau sentier. Ainsi, peu à peu, s'embrouillait la piste du Grand Maulne et se brisait le lien qu'il attachait à ceux qu'il avait quittés. Découragé, presque à bout de force, il résolut dans son désespoir de suivre ce sentier jusqu'au bout. À 100 pas de là, il débouchait dans une grande prairie grise où l'on distinguait de loin en loin des ombres qui devaient être des genévriers et une bâtisse obscure dans un repli de terrain. Maulne s'en approcha. Oh, ce n'était là qu'une sorte de grand parc à bétail ou de bergerie abandonnée. La porte céda avec un gémissement. La lueur de la lune, quand le grand vent chassait les nuages, passait à travers les fentes des cloisons. Une odeur de moisi régnait. Sans chercher plus avant, Maulne s'étendit sur la paille humide, le coude à terre, la tête dans la main. Ayant retiré sa ceinture, il se recroquevilla dans sa blouse, les genoux au ventre. Il songea alors à la couverture de la jument qu'il avait blessé dans le chemin, et il se sentit si malheureux, si fâché contre lui-même, qu'il lui prit une forte envie de pleurer. Aussi, s'efforça-t-il de penser à autre chose. Glacé jusqu'aux moelles, il se rappela un rêve, une vision plutôt, qu'il avait eue tout enfant et dont il n'avait jamais parlé à personne. Un matin, au lieu de s'éveiller dans sa chambre, où pendaient ses culottes et ses paletots, il s'était retrouvé dans une longue pièce verte, aux tentures pareilles à des feuillages. En ce lieu coulait une lumière si douce qu'on eût cru pouvoir la goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, le dos tourné, semblant attendre son réveil. Il n'avait pas eu la force de se glisser hors de son lit pour marcher dans cette demeure enchantée. Il s'était rendormi. Mais la prochaine fois, il jurait bien de se lever. Demain matin, peut-être. Le domaine mystérieux. Dès le petit jour, il se reprit à marcher. Mais son genou enflé lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment, tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut sans l'entendre. Il continua cependant de marcher dans sa direction avec une désolante lenteur. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courdis dans les causeaux des marais. Et sur cette solitude parfaite brillait un soleil de décembre clair et glacial. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin au-dessus d'un bois de sapin la flèche d'une tourelle grise. « Quelque vieux manoir abandonné, se dit-il, quelque pigeonnier désert. » Et sans presser le pas, il continua son chemin. Au coin du bois débouchait, entre 2 poteaux blancs, une allée où Môme s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta plein de surprise, troublé d'une émotion inexplicable. Il marchait, pourtant, du même pas fatigué. Le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait par instants. Et pourtant, un contentement extraordinaire le soulevait. Une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. C'est ainsi que jadis, la veille des grandes fêtes d'été, il se sentait défaillir lorsqu'à la tombée de la nuit on plantait des sapins dans les rues du bourg et que la fenêtre de sa chambre était obstruée par les branches. « Tant de joie, se dit-il, parce que j'arrive à ce vieux pigeonnier plein de hiboux et de courants d'air. » Et fâché contre lui-même, il s'arrêta, se demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin et continuer jusqu'au prochain village. Il réfléchissait depuis un instant, la tête basse, lorsqu'il s'aperçut soudain que l'allée était balayée à grands ronds réguliers comme on faisait chez lui pour les fêtes. Il se trouvait dans un chemin pareil à la grande rue de la Ferté le matin de l'Assomption. Il eut aperçu au détour de l'allée une troupe de gens en fête soulevant la poussière comme au mois de juin, qu'il n'eût pas été surpris davantage. Y aurait-il une fête dans cette solitude ? Se demanda-t-il. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta en retenant son souffle. C'étaient des voix enfantines. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. L'un d'eux, probablement une petite fille, parlait d'un ton si sage et si entendu que Môme, bien qu'il ne comprît guère le sens de ses paroles, ne put s'empêcher de sourire. « Une seule chose m'inquiète, disait-elle, c'est la question des chevaux. On n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. »« Jamais on m'en empêchera, répondit une voix moqueuse de jeune garçon. Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions ?» Même celle de nous faire du mal, s'il nous plaît. » Et les voix s'éloignèrent au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants. Oh, « Si la glace est fondue, dit une fillette, demain matin nous irons en bateau. »« Mais nous le permettra-t-on ? » dit une autre. « Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si France rentrait dès ce soir avec sa fiancée ? Eh ben, il ferait ce que nous voudrions. » Ah, il s'agit d'une noce, sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi ici. Étrange domaine. Il voulut sortir de sa cachette pour leur demander où l'on trouverait à boire et à manger. Il se dressa et vit le dernier groupe qui s'éloignait. C'étaient trois fillettes avec des robes droites qui s'arrêtaient aux genoux. Elles avaient de jolis chapeaux à brides. Une plume blanche leur traînait dans le cou à toutes les trois. L'une d'elles, à demi retournée, un peu penchée, écoutait sa compagne qui lui donnait de grandes explications, le doigt levé. « Je leur ferai peur, » se dit Moon, en regardant sa blouse paysanne déchirée et son ceinturon baroque de collégien de Sainte-Agathe. Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée, il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier, sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu. De l'autre côté, entre le mur et les annexes du domaine, c'était une longue cour étroite, toute remplie de voitures, comme une cour d'auberge un jour de foire. Il y en avait de tous les genres et de toutes les formes, de fines petites voitures à quatre places, les brancards en l'air, des charabancs, des bourbonnaises démodées avec des galeries à moulures, et même de vieilles berlines dont les glaces s'étaient levées. Moon, caché derrière les sapins de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu, lorsqu'il avisa de l'autre côté de la cour, juste au-dessus du siège d'un haut charaban, une fenêtre des annexes à demi ouverte. Deux barreaux de fer, comme on en voit derrière les domaines aux volets toujours fermés des écuries, avaient du chlore cette ouverture, mais le temps les avait décelés. « Oh, je vais entrer là, » se dit l'écolier, « je dormirai dans le foin, et je partirai au petit jour, sans avoir fait peur à ces belles petites filles. » Il franchit le mur péniblement à cause de son genou blessé, et passant d'une voiture sur l'autre, du siège d'un charaban sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre qu'il poussa sans bruit comme une porte. Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas qui devait être une chambre à coucher. On distinguait, dans la demi-obscurité du soir d'hiver, que la table, la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases, d'objets de prix et d'armes anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient qui devaient cacher une alcôve. Moln avait fermé la fenêtre tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors. Il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Un silence profond régnait sur ce domaine. Par instant seulement, on entendait gémir le grand vent de décembre. Et Moon, étendu, en venait à se demander si, malgré ces étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l'allée, malgré les voitures entassées, ce n'était pas là, simplement comme il l'avait pensé d'abord, une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon, et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. « On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part, » pensa-t-il. Mais, laissant la question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. La chambre de Wellington. Il faisait nuit lorsqu'il s'éveilla. Transi de froid, il se tourna et retourna sur sa couche, fripant et roulant sous lui sa blouse noire. Une faible clarté glauque baignait les rideaux de l'alcôve. S'asseyant sur le lit, il glissa sa tête entre les rideaux. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre, et l'on avait attaché dans l'embrasure deux lanternes vénitiennes vertes. Mais à peine Mould avait-il pu jeter un coup d'œil qu'il entendit sur le palier un bruit de pas étouffés et de conversation à voix basse. Il se rejeta dans l'alcôve et ses souliers ferrés firent sonner un des objets de bronze qu'il avait repoussé contre le mur. Un instant, très inquiet, il retint son souffle. Les pas se rapprochèrent et deux ombres glissèrent dans la chambre. « Ne fais pas de bruit !» disait l'un. « Oh !» répondait l'autre. « Il est toujours bien temps qu'il s'éveille. »« As-tu garni sa chambre ?»« Mais oui, comme celle des autres. » Le vent fit battre la fenêtre ouverte. « Tiens, dit le premier, tu n'as même pas fermé la fenêtre. Le vent a déjà éteint une des lanternes. Il va falloir la rallumer. » « Bon, » répondit l'autre, pris d'une paresse et d'un découragement soudain. « À quoi bon ces illuminations du côté de la campagne, du côté du désert, autant dire? Il n'y a personne pour les voir. »« Personne, mais il arrivera encore des gens pendant une partie de la nuit. Là-bas, sur la route, dans leur voiture, ils seront bien contents d'apercevoir nos lumières. » Moon entendit claquer une allumette. Celui qui avait parlé le dernier et qui paraissait être le chef reprit d'une voix traînante à la façon d'un fossoyeur de Shakespeare. « Tu mets des lanternes vertes à la chambre de Wellington, t'en mettrais aussi bien des rouges. Tu ne t'y connais pas plus que moi. Wellington, c'était un Américain, eh bien. C'est-il une couleur américaine, le vert? Toi, le comédien qui a voyagé, tu devrais savoir ça. » « Oh là là !» répondit le comédien. « Voyager, oui. J'ai voyagé, mais j'ai rien vu. Que veux-tu voir dans une roulotte ?» Moon, avec précaution, regarda entre les rideaux. Celui qui commandait la manœuvre était un gros homme nu-tête, enfoncé dans un énorme paletot. Il tenait à la main une longue perche garnie de lanternes multicolores, et il regardait paisiblement, une jambe croisée sur l'autre, travailler son compagnon. Quant au comédien, c'était le corps le plus lamentable qu'on puisse imaginer. Grand, maigre, grelottant, ses yeux glauques et louches, sa moustache retombant sur sa bouche édentée, faisait songer à la face d'un noyer qui ruisselle sur une dalle. Il était en manches de chemise, et ses dents claquaient. Il montrait dans ses paroles et ses gestes le mépris le plus parfait pour sa propre personne. Après un moment de réflexion amère et risible à la fois, il s'approcha de son partenaire et lui confia les deux bras écartés. « Veux que je te dise, je peux pas comprendre qu'on soit allé chercher des dégoûtants comme nous pour servir dans une fête pareille. Voilà, mon gars !» Mais sans prendre garde à ce grand élan du cœur, le gros homme continua de regarder son travail, les jambes croisées, bâilla, renifla tranquillement, puis, tournant le dos, s'en fut, sa perche sur l'épaule, en disant « Allons, en route! Il est temps de s'habiller pour le dîner !» Le bohémien le suivit, mais en passant devant l'alcôve, « Monsieur l'endormi, fit-il avec des révérences et des inflexions de voix gouailleuse, vous n'avez plus qu'à vous éveiller, à vous habiller en marquis, même si vous êtes un marmiteux comme je suis, et vous descendrez à la fête costumée, puisque c'est le bon plaisir de ces petits messieurs et de ces petites demoiselles. » Et il ajouta sur le ton d'un boniment forain, avec une dernière révérence, « Notre camarade Maloyau, attaché aux cuisines, vous présentera le personnage d'Arlequin et votre serviteur, celui du grand Pierrot. »